France Inter.
To be or not to be, not to be.
Il y a un tas de choses que je détestais petit que j'adore adulte. Par exemple, le café, le vin, les endives. Embrasser son amoureuse sur la bouche. Oui, parce que quand j'étais petit, je trouvais ça bête. Marcher dans la forêt, faire du sport et Superman. Même si j'avoue, le film Superman de Richard Donner en 78, même si aujourd'hui il est encore un de mes films préférés, j'ai toujours eu un certain mal durant mes vertes années à comprendre le personnage de Clark Kent. Trop lisse, trop poli, trop bienveillant, trop blanc, à la mâchoire trop carrée. Ses incroyables pouvoirs, c'était pour moi donner de la confiture aux cochons, tant Clark Kent mettait toujours un point d'honneur à ne pas en abuser. Il éliminait pas les criminels, il les neutralisait avec le sourire. Et pire, il les invitait même à se réinsérer quand il ne sympathisait pas avec eux entre deux préventions de tsunami et trois chatons sauvés dans les arbres. Je supportais pas sa modération et lui préférais Batman ou Wolverine qui au mieux estropiaient les criminels ou au pire les exécutaient sans autre forme de procès. Ce que je détestais, c'était son total contrôle de soi. J'avais l'impression que pour être aussi détaché, il n'avait pas suivi l'histoire, il n'avait pas entendu les cris des victimes. Et puis avec le temps, et surtout l'âge, j'ai compris que Superman voyait et entendait tout. Le bon comme le mauvais. Superman nous semble extraterrestre non pas parce qu'il vient de Krypton, mais parce qu'il fait le choix en permanence de ne pas sombrer dans la facilité. Le super pouvoir le plus impressionnant de Superman n'est pas sa force ou sa vision thermique, mais sa volonté à ne pas abuser des privilèges qui sont les siens. Eh ben, tu m'étonnes qu'en 2025, ça nous semble extraterrestre.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
La bande dessinée Action Comics numéro 1 paraît en avril 1938, et avec elle, les jeunes lecteurs américains découvrent Superman, la création de Jerry Siegel et Joe Shuster, deux fils d'immigrés juifs européens. Une création qui n'aura de cesse de grandir au fil de ses adaptations et de sa publication qui continue encore aujourd'hui. On parle d'un Superman, là où on devrait parler des Superman. Car plus qu'un super-héros, Superman c'est aussi une vision de l'Amérique et du monde qui n'a jamais cessé de changer. À l'heure où Donald Trump est de nouveau président des États-Unis, avec derrière lui Elon Musk, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg, où se situe lui, le migrant le plus connu de la pop culture et son némésis, Lex Luthor, l'entrepreneur de la tech qui fut un temps lui aussi président des États-Unis. Et pour le savoir, je suis entouré par Yann Graff, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes traducteur, éditeur et commissaire de l'exposition Superman au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, à voir jusqu'au 10 mars.
Effectivement.
Avec nous de retour, Arnaud Kikou Tomassini, bonjour.
Bonjour.
Journaliste spécialisé comics, rédacteur en chef du média d'actualité comicsblog.fr, co-créateur et animateur du podcast First Print, dédié à la bande dessinée américaine, et instigateur des First Print Awards, première cérémonie de récompense consacrée aux comics en France.
C'est tout à fait ça, et on dirait presque qu'on te l'a écrit, c'est incroyable.
C'est un
hein, c'est ouf.
C'est ouf. Avec nous également, Alexandra Ramos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous travaillez aux médias comme dans ta bulle, communicante et journaliste comics.
C'est ça.
Et enfin, de retour lui aussi, François Hercouet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tout simplement directeur éditorial d'Urban Comics, l'éditeur français de Superman.
Exactement, j'ai cette chance.
Je veux le voir, et je veux le voir maintenant. Superman, j'attends. Oh. Superman.
Et vous êtes ?
Nous verrons ça plus tard. Almerak nous attend. Vous devez seulement faire vos preuves et...
Je suis navré, mais je crois que vous vous faites des idées. Je suis flatté que vous m'ayez remarqué, mais c'est ici que je vis, sur Terre.
Vous voulez dire que vous refusez le trône royal d'Almerak ? Et que vous me refusez, moi ?
Eh bien, oui.
Ah ! Vous venez d'entendre un extrait de Maxima, la reine guerrière, le 37e épisode de Superman, l'ange de Métropolis, la série animée diffusée en France à partir de 1997 avec Emmanuel Jacomy pour la voix française de Superman et Céline Monsara pour Maxima, la guerrière. Yann Graff, ma première question, c'est depuis combien d'années Superman est publié aux États-Unis ?
Alors depuis 1938, donc si je compte bien, ça fait 88, 85, je ne sais plus, 87 ans. Mais en tout cas, il a été publié mensuellement depuis, et non seulement mensuellement, mais pas dans un seul mensuel, mais à partir de 1939, dans deux mensuels, puis dans plusieurs magazines. Donc ça fait une quantité d'histoires en bande dessinée qui est assez impressionnante, puisque c'est publié en continu, il n'y a pas un album par an, comme on peut avoir dans le franco-belge.
Donc chaque mois, aux États-Unis, il y a toujours eu une histoire de Superman et il n'y a jamais eu d'interruption de parution.
Jamais d'interruption de parution, ça, c'est ce qui fait que le comic book se rapproche quand même à des racines communes avec le dessin de presse, je trouve. Et ce qui fait que c'est très intéressant d'analyser les liens entre l'actualité, que ce soit l'actualité politique, sociale, historique, et la publication des comics, puisque pris par le temps, les auteurs s'inspire de ce qu'il voit au quotidien.
Arnaud Tomassini, qu'est-ce que représente Superman dans l'histoire de la bande dessinée et la pop culture américaine, même encore aujourd'hui ?
C'est le papa de tous les super-héros. C'est quand même le premier représentant de toute une vague de personnages à super-pouvoirs qui vont apparaître sur la fin des années 30. Et c'est encore à l'heure aujourd'hui, je crois, le super-héros qui a vendu le plus de comics, enfin, et qui a été le populaire, ce dont la popularité a été presque indétrônable jusqu'à il y a encore assez peu de temps. Et c'est une incarnation vraiment de ce pan de la culture de la bande dessinée qui est vraiment très propre aux États-Unis, un modèle de publication aussi, puisque ce modèle de comic book, en fait, existe toujours encore à l'heure actuelle. En fait, ça représente énormément de choses, mais à la fois sur le plan du personnage, de la symbolique aussi, de ce que ça représente vraiment par rapport à l'idéal, en fait, super-héroïque, à la fois du physique, en fait, du super-mec, en fait, physique, mais aussi dans ce qu'il incarne, dans ses valeurs aussi. Des valeurs de liberté, des valeurs de défense de l'opprimé, du plus faible, mais aussi un symbole pour tout un pan à la fois d'un art, du 9e art, mais aussi d'une industrie, d'une façon de faire les comic books en mensuel, de déléguer aussi un personnage à d'autres auteurs et tout ça pour qu'en fait on puisse continuer de créer des histoires pendant 87 ans.
Alexandra Ramos.
Et très rapidement, une année après la publication de Superman, il y a eu très vite du merchandising avec des jouets qui sont apparus, avec une émission de radio. Il a été aussi l'effigie de l'exposition universelle de New York en 1940, qui était le thème, qui était le monde de demain, et donc lui représente l'homme de demain. Donc il y a très vite eu cet engouement qui n'était pas uniquement sur le papier, mais qui a été autour du comic book et ce qu'on connaît bien aujourd'hui. Avec de la série d'animation, de la radio, c'est suivi des films et évidemment des goodies, des jouets pour unifier encore plus le personnage avec son public.
François Hercouët, Superman est la figure de proue, du moins la mascotte de DC Comics. Ce S, évidemment, c'est représentatif de toute une maison d'édition. Mais on sait qu'aujourd'hui, la plus grosse locomotive, c'est Batman. Donc, quelle est la place de Superman pour DC Comics ?
C'est ce que Arnaud disait, c'est que c'est le modèle à partir duquel tout a été défini. Et même Batman. Batman ne s'est construit que quasiment en contrepartie, en fait, de son alter ego kryptonien. C'est que on part sur une base qui est quand même commune, c'est que les deux personnages Batman et Superman sont des orphelins. L'un est orphelin de sa terre Krypton, l'autre est orphelin de ses parents. Mais chacun va choisir, en fait, d'adopter des philosophies de vie radicalement différentes. Là où Superman et Batman donc partagent comme une identité secrète, Bruce Wayne pour Batman et Clark Kent pour Superman, mais l'un va agir à visage découvert, va se parer de couleurs chatoyantes. là où l'autre va plutôt agir dans les ombres, toujours la nuit. Donc on est ici sur deux attitudes complètement différentes, même par rapport aux terriens ou à leurs congénères. C'est que Superman n'aura de cesse que de vouloir être adopté en fait par les humains, donc sa terre d'adoption, là où Batman est beaucoup plus, on va dire, misanthrope. C'est littéralement une définition du personnage. Donc on est ici vraiment sur un modèle qui, à partir duquel tous les autres héros du genre super-héroïque vont se définir.
Yann Graff, la création de Superman s'est échelonnée sur plusieurs années. La forme que le grand public connaît n'était pas la forme de Superman de départ. Qui sont les créateurs et comment cette évolution s'est faite ?
Oui, les deux créateurs, c'est Jerry Siegel et Joe Shuster. Donc Jerry Siegel au scénario, Joe Shuster au dessin. En fait, ils se rencontrent au lycée. Jerry Siegel réalise des petites nouvelles de science-fiction. Ce sont deux fans à la base de science-fiction, et Joe Shuster les illustre. Et il y a une nouvelle qu'il publie qui s'appelle Reign of the Superman, qui est sur un vagabond qui obtient des super-pouvoirs grâce à un savant, mais qui devient maléfique, en fait. Ça devient un surhomme, mais il se lance dans une destruction à grande échelle, en fait, de son environnement. Ce qu'ils vont garder, en fait, ce sont ces pouvoirs extraordinaires, et ils vont les remodeler dans un personnage conçu au départ pour être un personnage de comic strip, parce que c'est le but, en fait, de tous les auteurs de bande dessinée à l'époque, c'est d'avoir un strip de journaux. Puisque c'est vraiment l'accès à la plus grande diffusion possible, c'est-à-dire que vous touchez, en étant publié dans des quotidiens, vous touchez toute l'Amérique. C'est-à-dire toute l'Amérique lit les personnages de bande dessinée de journaux comme Flash Gordon. Donc ils remodèlent le personnage en un justicier à super pouvoir. Ils inventent cette origine de planète extraterrestre qui est détruite et Superman qui est envoyé. Alors il y a des références, certains ont retracé avec des références bibliques comme Moïse, d'autres ont retracé avec un roman qui s'appelle Gladiator de Philip Wiley. Voilà, il y a plusieurs influences qui se percutent, et c'est vers 1936 qu'ils conçoivent vraiment Superman tel quel. Ils veulent le publier en journaux, tous les journaux le refusent, et pendant 2 ans ils vont le proposer aux éditeurs de comic book, et tous les éditeurs vont le refuser jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau comic book qui se lance chez ce qui n'était pas encore DC Comics, ce qui s'appelait National Comics à l'époque, qui s'appelle Action Comics. Et l'éditeur Vin Sullivan a besoin d'un personnage d'une bande dessinée pour être c'est une revue anthologique, et ils ont besoin d'une vedette. Et ils décident de parier sur ce personnage, donc Action Comics numéro 1. La couverture représente Superman, et la première idée qu'on y trouve à l'intérieur, c'est Superman. Et à partir de là, ils vont... En fait, dans Action Comics, ils vont faire une tournante en fait sur les couvertures avec les différents personnages, et ils s'aperçoivent que à chaque fois que Superman est sur la couverture, c'est celui qui se vend le mieux. Donc très vite, ils s'aperçoivent que le personnage est vendeur, et ils vont leur donner dès 1939 un nouveau comic book, et le Sésame, pareil en 1939. Le comic strip de presse, où là, Superman va toucher toute l'Amérique.
Nous sommes ensemble pour parler de la mythologie de Superman et sa longévité dans l'histoire de la bande dessinée américaine. Mais pour le moment, on va écouter l'autre petite fille préférée de l'Amérique, Taylor Swift, qui nous interprète évidemment Superman.
Dark and Superman, he puts papers in his briefcase and drives away to save the world or go to work. It's the same thing to me. He's got his mother's eyes, his father's ambition. I wonder.
Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter.
La plaisanterie a assez duré, Métallo. Il est temps que tu retournes dans ta cellule.
Très drôle, Superman. Il est plutôt temps de se parler à cœur ouvert. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout vert, ça fait peine à voir.
Tiens bon, Superman! Je m'occupe de lui!
Fais vite, Ronald. Utilise tes pouvoirs pour transmuter la source de la kryptonite verte en plomb.
Oh, c'était prévu, professeur!
Tu l'as transformé en kryptonite rouge, celle qui donne la rage.
J'ai pas fait exprès, désolé tout le monde. Ce que je voulais faire, c'était ça.
Hein? Où suis-je? Qui suis-je? Aïe! Mais pourquoi il me frappe, lui?
Oh, tu voulais en faire de la kryptonite dorée, celle qui rend amnésique?
Bon, je vais être honnête, je me souviens plus trop de la composition chimique de la kryptonite verte. Voilà pourquoi je suis incapable de la transmuter.
On l'a pourtant vu ce matin.
À ma décharge, je me suis ennuyé comme un rat mort pendant ce cours ultra long.
C'était un extrait tiré de la série animée La Ligue des Justiciers Action, avec notamment Emmanuel Giacomi, toujours pour la voix française de Superman. François Hercouet, en 2025, quel est le statut en comic book de Superman? Parce que il est désormais père de famille, il a même une famille étendue.
Son statut, il va être multiple, puisque c'est un personnage qui a évolué tout au long de son existence et qui, surtout qui s'est adapté en fait, à chaque époque dans laquelle il a été publié. Et sa dernière incarnation en date, en fait, est une reconstruction du personnage avec une nouvelle origine, en tout cas des nouvelles circonstances qui l'ont vu naître. C'est une série notamment qui est scénarisée par Jason Aaron, dessinée par Rafa Sandoval, et qui porte le nom de Absolute Superman et qui va nous proposer une espèce de récit alternatif, tout simplement, où on va avoir un personnage qui ne va pas arriver sur Terre dans ses langes, en fait, qui va arriver à l'état de bébé. Non,
il ne va pas être élevé par les Kent.
Il ne sera pas élevé par les Kent. Il a déjà été élevé par ses parents. Donc, la planète Krypton a toujours explosé. Ça reste la fatalité, on va dire, qui fait partie de l'ADN du personnage. Il sera toujours orphelin de sa planète, mais il aura eu avant ça le temps d'être formé en fait par ses parents, d'être qu'on lui inculque la culture kryptonienne, et c'est ce qui va faire toute la différence d'avoir un personnage qui va arriver autour de la vingtaine, mais en tout cas porteur de cette culture kryptonienne, et qu'il va se rendre compte simplement que ses valeurs vont être plus ou moins solubles dans la culture des terriens. Mais d'abord, on va du coup avoir un personnage qui va apparaître très en opposition, en fait, avec ses premiers contacts avec les Terriens seront assez violents, puisqu'en plus il va retrouver dans le camp adverse, dans une espèce de milice un peu paramilitaire, Lois Lane, qui là pour le coup n'aura pas un micro dans les mains, mais
oui, parce qu'il y a aussi une dimension pour le coup prolétaire chez Superman, parce que ses parents, Jor-El et sa mère sont eux-mêmes issus de la caste des ouvriers, là où jusqu'à maintenant on avait l'impression que c'était les scientifiques ou l'élite de Krypton. Là, le S, c'est vraiment un signe distinctif pour montrer les ouvriers de Krypton.
Tout à fait. D'une caste oui, là, qui est appelée en fait à servir l'élite scientifique, et ses parents sont beaucoup plus les mains littéralement dans la terre, et vont essayer de prévenir en fait l'élite kryptonienne de la fin proche en fait de leur terre. Évidemment, ça rappelle pas mal tout ce que la communauté scientifique essaie de nous dire en agitant haut les bras. Et on arrive ici vraiment avec un personnage que moi j'ai, quand on doit présenter un titre en interne aux commerciaux, on doit avoir des pitchs et des phrases un petit peu qui marquent, et c'est vrai que on l'a assez rapidement qualifié de prolétaire de l'espace. Donc cette version de Superman va revenir en même temps quelque part à ce qu'il a toujours été, en fait. C'est un protecteur des plus faibles, et c'est un grand acteur de la justice sociale.
Arnaud Thomasini, initialement Superman, alors quand on en parle au grand public, on imagine en train de se battre contre des génies scientifiques devenus complètement fous, des dictateurs de l'espace, etc. Mais le premier Superman, tel qu'il avait été conçu, était véritablement un social justice warrior.
Oui, j'allais dire, c'est un wokiste, tout simplement. Ça n'a pas changé depuis 87 ans. Dans les toutes premières histoires, en fait les, comme l'a dit François et Yann depuis avant, en fait, c'est un personnage qui évolue avec ses auteurs et donc qui est aussi un reflet, en fait, de ce que la société construit, de ce qui importe aussi des auteurs dans la société qui les voit évoluer. Donc, à l'époque de 1938, et Joachim Stier et Jerzy Siegel viennent de milieux pauvres aussi. Donc ils vont s'intéresser à des choses qui leur parlent à ce moment-là. Donc dans les premiers numéros de Superman, Superman s'en prend à un type qui bat sa femme, il s'en prend à des patrons qui se comportent très mal avec leurs ouvriers, il va aussi s'en prendre à des dictateurs fascistes pour faire arrêter des conflits internationaux. Mais il n'y a pas toute cette dimension ultra SF, malgré les origines qui sont déjà là, qui vont être amenées. Mais oui, depuis le début, en fait, Superman est un personnage de gauche, je crois.
Alexandra Ramos ?
Comme l'ont dit aussi mes compères, ça suit l'évolution de la société et Superman aussi aborde toute une partie de la santé mentale et de la dépression. Il y a eu des titres qui ont abordé ça, notamment le Superman Up in the Sky de Tom King, où il va traverser toute la galaxie pour trouver une seule fille, car une petite fille a disparu et est en danger. Et donc il est complètement bouleversé entre trouver cette fille-là parce que c'est son but et en même temps il abandonne aussi toute la planète Terre, Métropolis, et il n'arrête pas de penser, bah, si je ne suis pas là, est-ce que je vais pouvoir les sauver, en même temps je dois sauver cette petite fille. Il y a eu aussi le titre Superman Lost de Christopher Priest qui lui aborde aussi le fait que pendant 20 ans en fait il disparaît. Et il revient et il y a une planche où il est complètement par terre, et là on est loin de cette vision la première planche d'Action Comics numéro 1 avec Superman qui porte une voiture. Là il est un peu en dépression, il comprend pas ce qui s'est passé et il va devoir reconstruire un petit peu sa vie.
Yann Graff, est-ce qu'on peut résumer la publication de Superman en plusieurs phases et qu'est-ce qui les caractérise ?
Oui, complètement, parce que en gros, tous les 10 ans, Superman est réinventé. Donc, comme on le disait, pour coller à l'actualité politique et sociale, les 10 premières années, on va dire que les 2 premières années, c'est vraiment effectivement ce héros du New Deal confronté aux conséquences de la crise de 29. Ça, c'est vraiment sur les 2 premières années. Après, il y a l'entrée en guerre des États-Unis qui change un petit peu la donne, qui est que les super-héros doivent participer à l'effort de guerre. Alors, c'est surtout sur les couvertures et c'est surtout dans des images promotionnelles, en fait, pour faire notamment tout ce qui est la promotion du recyclage de papier, par exemple. Et c'est là qu'on commence à voir les images patriotiques de Superman qui tient le drapeau, qui tient l'aigle américain, enfin voilà, ce genre d'imagerie. Et après la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1948, donc Siegel et Shuster sont débarqués de la série. Et il y a un éditeur qui s'appelle Mort Wesinger, qui est à la base un agent d'auteur de science-fiction, et qui lui va vraiment infléchir le personnage sur ce versant science-fictionnel, à tel point que dans les années 50, il va mettre en place déjà une super famille. C'est-à-dire que la famille Superman, une famille Superman étendue avec Supergirl, avec le chien, avec Bizarro, avec... où on explore beaucoup le passé kryptonien du personnage, c'est avec Mort Wesinger. Et ça va devenir très populaire, ça va être là où il va avoir les meilleures ventes depuis la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale, les très bonnes ventes sont dues aussi au fait qu'on vend à la fois aux civils et aux militaires. Donc, ce qui floue un peu les ventes. Mais dans les années 60, c'est vraiment... début des années 60, c'est vraiment une explosion en termes de ventes. Et voilà, donc ça va durer jusque dans les années 80, avec une prise de conscience sociale là encore dans les années 70, mais qui fonctionne moins bien, on va dire, que dans les années 30. Le film va relancer les ventes, et en 1986, il y a l'autre auteur qui est très important sur Superman, qui est John Byrne, qui va remanier toutes les origines, remanier le passé du personnage, et là, mettre l'accent non plus sur la science-fiction, non plus sur le côté kryptonien, mais vraiment sur le côté enfant élevé au Kansas, représentant de ces valeurs traditionnelles. On est dans les années 80, on est sur la période Reagan, on est à un retour quand même du conservatisme, mais le Superman de Byrne est un mélange de conservatisme et de modernité, et de critique aussi de ce capitalisme voilà, qui est déréglé avec le personnage de Lex Luthor qui passe de savant fou à businessman. Et voilà, plus tard, dans les années, dans les années 2000, qui deviendra même président des États-Unis. Depuis John Byrne, on a des tentatives effectivement de rechanger ses origines, mais on voit qu'on revient toujours plus ou moins à cette version. Quoi. Cette version est tellement synthétise tellement d'aspects du personnage et est tellement logique que voilà, on revient toujours à cette base que Byrne a posée et qui finalement revient aux origines de Jerry Siegel et Joe Shuster, quoi, avec un personnage très ancré dans son époque.
Vous étiez dans la région par hasard ?
Savez-vous qui ils sont ? La Société des Ombres. Je suis après eux depuis des semaines, espérons qu'ils me conduiraient à Ra's al Ghul.
Qui ça ?
Un grand cerveau du crime, plus dangereux que le Joker et Luthor réunis.
Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont enfreint la loi dans ma ville.
Et vous avez réglé le problème comme d'habitude avec votre force.
Si vous vouliez jouer les héros à Metropolis, vous auriez dû me prévenir.
La prochaine fois, je vous faxerai mon itinéraire.
Soyons sérieux, j'aimerais vous aider.
C'était un extrait de Superman, la série animée, les épisodes World's Finest, c'est-à-dire les 16, 17 et 18e épisodes où Superman s'allie au Chevalier Noir, Batman. Alexandra Ramos, depuis la fin des années 80, on a l'habitude, à intervalles réguliers, de voir Superman en opposition avec Batman. Et c'est vrai que c'est deux personnages qui se complètent, mais il y a aussi une série qui est sortie, World's Finest, désormais qui refait la part belle à leur association. Est-ce que, pour le grand public, est-ce que Batman et Superman ne s'entendent pas ou est-ce qu'au contraire, c'est deux frères de parents différents ?
Non, au contraire, ce sont des meilleurs amis parce qu'ils ont appris au fil du temps à se connaître. Et justement, je pense que leurs différences permettent qu'ils se rassemblent. Batman l'utilise beaucoup. Il y a de nombreux récits où, au final, Batman n'arrive pas à communiquer avec les personnes parce qu'il insuffle la peur. C'est le propre de ce personnage-là. Et donc, par moments, il y a des histoires où les enfants sont là et Batman va devoir appeler Superman pour lui dire bah, « tu es bien plus fort que moi, tu es bien plus à l'aise pour aider les gens. » parce que c'est sa première mission, parce que Superman représente l'espoir. Donc tous les deux vont essayer d'à chaque fois s'apporter de l'aide. On a aussi dans le run de Wonder Woman dernièrement de Tom King toute une scène où Wonder Woman et Superman cherchent un cadeau pour Batman pour son anniversaire. Et donc on voit un vrai amour fraternel entre les deux.
Oui, d'autant que quand on commence à s'intéresser à la psychologie des personnages telle qu'elle a été définie par une multitude de scénaristes, Bruce est justement ce que Clark Superman voudrait que toute l'humanité soit, c'est-à-dire quelqu'un qui essaie de faire mieux, qui se bat pour défendre les injustices, et en même temps, Bruce, quand il regarde Clark, il voit quelqu'un avec une volonté et un compas moral absolument inébranlable, et qui a toujours foi en l'homme, là où lui... Comme l'a dit François Hercouet, sa misanthropie dit oui, c'est sûr que quand on se fade le Joker, au bout d'un moment, on a tendance un petit peu à.
Je pense même qu'il y a un peu de jalousie parce que leur différence aussi, elle est dans leur vie personnelle. Là où Superman Clark Kent arrive à avoir une vie amoureuse avec Lois Lane, on connaît bien la vie très déstructurée de Bruce Wayne avec sa relation tumultueuse du jeu du chat et de la souris avec Catwoman ou bien d'autres femmes. Et donc, il n'a que cette quête de la vengeance dans sa vie. Alors que Superman, lui, va avoir sa famille encore, donc ses parents, va avoir sa petite amie, va avoir son chien, va avoir sa cousine, et donc va être beaucoup plus ancré dans le réel, contrairement à Batman au sein de Gotham City.
Ce qui est paradoxal.
Complètement.
François Hercouet, justement, World Finance, c'est une série excellente, écrite par Mark Waid et dessinée par Dan Mora, la star actuelle de chez DC Comics. Et c'est un récit qui se passe dans le passé de l'univers de DC Comics. Et il y a énormément aussi de récits hors continuité qui font la part belle à Superman. Est-ce que, justement, vous avez parlé d'Absolute Superman qui réinvente le personnage, est-ce qu'il est plus facile de gérer Superman hors continuité plutôt que de le laisser tel quel dans l'univers d'ici contemporain.
Ben, souvent, on se rend compte que on parlait tout à l'heure de Mort Weisinger, qui donc était le scénariste, enfin, pas le scénariste, mais le directeur éditorial un petit peu des aventures de DC des années 40 quasiment aux années 70, et qui a permis en fait ces itérations un petit peu hors continuité, et qui justement dans des épisodes plutôt imaginaires, où on imaginait que Lois Lane allait se marier, non pas avec Clark Kent, mais avec Superman, où en fait toutes ces situations un peu fantasmées permettaient de sortir le personnage de sa continuité pour creuser un peu plus sa psychologie. Donc oui, c'est quelque chose qui a été complètement, qui a été vraiment très bien exploité dans ces épisodes, les premiers What If, en fait, ou des Elseworlds, tels qu'on les appelle aujourd'hui.
Des récits alternatifs.
Des récits alternatifs, tout à fait. Et c'est quelque chose, c'est une tradition, en fait, qui est restée ancrée alors sur Superman, mais également pour l'ensemble des autres personnages de DC Comics. Et l'une de ces réalités alternatives les plus connues, on va dire, serait peut-être le Superman Red Son de Mark Millar et Dave Johnson pour le dessin, sur une idée originale de Grant Morrison, on peut quand même le préciser, où on imagine en fait que Superman ne serait pas la nacelle en fait de Superman ne se serait pas abîmée en plein champ du Kansas, mais aurait atterri en fait dans un camp de travail, un kolkhoz en fait ukrainien, donc la guerre froide, la domination en tout cas soviétique. Et on se retrouve du coup avec un personnage qui va devenir en fait le protecteur de la mère patrie russe, et qui va littéralement changer en fait le cours de l'histoire. Donc c'est ce genre un petit peu d'uchronie en fait qui est souvent intéressante d'étudier quand on a un personnage de l'ampleur et de l'envergure de Superman, de voir la manière dont en gros un seul de ses éternuements peut également changer la face du monde. Mais il y a aussi dans cela la volonté du personnage de ne pas être forcément ce guide spirituel, de pas être la canne en fait de l'humanité, mais plutôt que d'être en fait un symbole d'inspiration, peut-être un modèle à suivre au mieux, mais arrêter d'être vraiment ce super agent qui va retordre ou en tout cas modifier, modeler l'histoire telle que lui la voudrait. Donc on est ici vraiment plutôt sur un guide et sur un symbole d'espoir qu'un dictateur, mais on peut encore une fois, donc je peux compléter et boucler sur les récits alternatifs, voir un récit de Tom Taylor notamment qui s'appelle Injustice
qui adapté du jeu vidéo. Voilà. Par les créateurs de Mortal Kombat.
Exactement. Et Tom Taylor a eu ce talent de d'imaginer, d'aller encore plus loin, en fait, de créer véritablement toute cette dimension alternative où Superman n'est pas le protecteur de l'humanité, mais plutôt un dictateur, en fait, un dictateur éclairé, mais ultra violent.
Alors, il faut préciser qu'il le devient parce que ils échangent leurs ennemis avec Batman. Enfin, c'est-à-dire que le Joker vient chercher des noises à Superman parce qu'il ne trouve plus Batman si amusant vu qu'il n'arrête pas de déjouer ses pièges. Et il veut voir si la manière qu'il a de traiter Batman, ça marcherait avec Superman. Et il fait croire à Superman que Lois Lane est un de ses ennemis, Doomsday. Et Superman emmène Doomsday dans l'espace. Or, c'était son épouse avec le gaz, l'épouvantail.
Son épouse enceinte.
Voilà. Donc, autant dire que une fois qu'il se rend compte de ça, il vrit totalement.
Ouais, qui était connecté à une bombe nucléaire dans Metropolis. Donc, il tue à la fois sa femme enceinte et il provoque la destruction de sa ville. Mm.
Voilà. Donc après,
Donc le mental est.
Le mental en prend un coup, sauf que c'est un mental sur une personne avec le potentiel de Superman.
Et là, du coup, on voit vraiment ce que chaque peut-être auteur à son niveau peut aussi imaginer le personnage dans sa pire version. On l'a également dans Injustice. Ouais.
Arnaud Tomassini. Le monde du dehors, le grand public, a eu vent de certains grands événements de la vie de Superman via les médias généralistes comme nous, à France Inter. La mort de Superman, l'homosexualité du fils de Superman. Est-ce que ces coups marketing ont drainé des nouveaux lecteurs en librairie, ou est-ce que c'est resté un épiphénomène comme on a pu voir chez les concurrents avec la mort de Captain America et autres?
Alors la bisexualité du fils de Superman, pour le coup, puisqu'il aime les garçons oui. et les filles, il aime tout. Alors après, pour l'impact sur les ventes, je demanderais plutôt à Yann ou François de voir si ça s'est répercuté. Je pense que, alors la mort de Superman, il y a plus de 30 ans maintenant, ça a été un vrai coup en l'occurrence. Mais après, c'était l'époque aussi où les éditeurs de comics rivalisaient de subterfuges et de drama en fait pour attirer l'attention à la fois des lecteurs. Mais après, c'était la première fois qu'on faisait vraiment mourir Superman, l'homme de demain. Donc ça a fait la une des journaux télévisés
ce genre de choses-là, chose qui n'arriverait plus, je pense, aujourd'hui. Et après, pour les autres événements, enfin, il y a eu Superman s'est marié, Superman a eu un fils, Superman donc a vu son fils grandir, effectivement, explorer sa sexualité. Ça a fait un coup médiatique, je pense que ça a pu drainer quelques ventes par la part des personnes qui sont concernées par ce genre de thématiques. Ça a surtout attiré pas mal de remous de la part de personnes qui ne supportent pas l'idée que des gens qui existent dans la vie réelle puissent être transposés dans une bande dessinée. Après, je pense que c'était surtout une volonté de DC Comics et des auteurs impliqués, parce qu'on parle encore de Tom Taylor, qui est un amoureux inconditionnel de Superman et quelqu'un qui milite activement, en fait, qui s'exprime sans phare dans ses bandes dessinées de super-héros sur l'importance des droits et des représentations LGBT. Donc, en fait, c'est simplement une évolution qui, pour lui semblait naturelle pour ce personnage, puisque, en fait, John Kent, donc, c'était un adolescent. Alors, je ne vais pas t'apprendre que c'est à l'adolescence généralement qu'on découvre un peu sa sexualité. Comme elle n'avait pas été abordée pour ce personnage, ils se sont dit bah, pourquoi pas en fait, pourquoi ne pas le faire. Et ça aussi, ça participe à une volonté généralement du monde des comics, en fait, simplement d'être progressiste. En fait, on l'a dit avant, il y a 87 ans, Superman disait aux lecteurs ne battez pas vos femmes. Donc en fait, plus de 8 décennies plus tard, on dit juste mais en fait, l'homme de demain peut aussi avoir une sexualité ou juste simplement aimer des gens en fait du même sexe ou du même genre que lui, et en fait c'est une forme de normalité. Et ce qui est super important par rapport à ça, c'est simplement qu'on l'a fait avec un Superman, puisqu'on l'a fait vraiment au moment où John Kent devient Superman, parce que c'est vraiment tout un autre sujet, mais en gros, dans les questions de représentation, on peut toujours dire, mais oui, mais créez des nouveaux personnages, et faites-le, donc on va créer un personnage mineur, tertiaire, qui n'aura pas droit à sa publication, et qu'on peut en fait tout à fait esquiver. Là, je pense qu'il y avait un vrai point de dire, mais regardez, c'est Superman, et Superman, en fait, il peut être ça aussi, et ça, c'est vraiment important pour toutes les personnes concernées, de se dire, mais en fait, je peux m'identifier concrètement. Les super-héros sont des avatars de beaucoup de choses, et en fait, bien entendu que j'ai pas perdu mes parents et je suis pas multimilliardaire, mais je peux m'identifier sur certains aspects, par exemple à Batman. Mais en fait, parfois ça peut être plus explicite, on peut se dire aussi, mais en fait je peux m'identifier à ce Superman parce qu'en fait, il va avoir la même approche que j'ai avec les gens que moi, donc c'est tout un ensemble. Après, des gens ont voulu faire croire que ça avait plombé les ventes des comics. Les chiffres de vente montrent que c'est le contraire, en fait, simplement. Je suis pas sûr que ça drive plus quelque chose. Par contre, il y a une vraie importance, à la fois pour les gens que ça interpelle, mais aussi simplement dans la construction historique du médium de la bande dessinée.
Et Alexandra,
on le sait, le comics a une communauté de niche, et je pense que c'est important aussi pour attirer de nouveaux lecteurs et de nouvelles lectrices, de voir qu'on est dans l'ère du temps. On l'a vu aussi avec le personnage d'Harley Quinn, qui est officiellement lesbienne, et comme tu l'as dit, c'est pas un personnage qui a été créé pour être lesbienne. Elle l'a toujours été, vu qu'il y avait toujours une relation, on va dire, ambiguë avec Poison Ivy. Et donc, c'est essentiel pour les personnes de se sentir représentées, surtout que on a de tout temps dans les comics parlé, en tout cas vu, de l'hypersexualisation avec des tenues exubérantes ou pour les hommes une hypermasculinité. Sauf qu'on voyait très peu de scènes de sexe, ou en tout cas on ne parlait pas de sexualité. Donc il y avait cette ambiguïté qui était un peu étrange. C'est beaucoup plus clair aujourd'hui de dire je vais parler de ma sexualité, avoir une scène d'amour pour justement rentrer bien dans cette histoire où on a une histoire de super-héros ou de super-héroïne, et puis une histoire intime.
Yann Graff, il y a aussi une particularité avec Superman, c'est qu'énormément de ces évolutions sont arrivées sur d'autres médiums que la bande dessinée. Le vol, la kryptonite, même son mariage. Je sais que la série Lois et Clark a accéléré plus ou moins le mariage en bande dessinée. Est-ce que Superman est un personnage qu'on peut qualifier dans sa mythologie de transmédia dès le départ ?
Oui, alors ça n'a pas accéléré le mariage, en fait ça l'a retardé. Et c'est comme ça qu'on a eu la mort de Superman, puisque normalement l'année où a été publiée donc la mort de Superman, il devait se marier avec Lois Lane, il y avait toute une storyline, ils étaient fiancés. Et comme la série Lois et Clark débutait, les producteurs ont demandé aux auteurs décaler pour qu'on puisse faire coïncider le mariage avec les bandes dessinées et avec la diffusion de l'épisode. Et du coup, ils ont dû mettre à la poubelle en fait tous les plans scénaristiques de l'année, et ils ont décidé donc de le tuer. Et
du coup, c'est radical.
C'était Jerry Ordway qui l'a proposé en réunion, parce qu'en fait, il le proposait à chaque fois. C'est-à-dire, quand ils faisaient les réunions éditoriales et les réunions de scénaristes, et qu'ils étaient coincés, il y avait toujours Jerry Ordway qui proposait « on n'a qu'à le tuer ». Et là, comme ils étaient vraiment très coincés, ils ont organisé ce plan, et c'est un plan éditorial. Quand on a republié chez Urban La mort de Superman, on avait carrément le tableau de Mike Carlin qui présentait en fait toute l'année de publication et tous les numéros. Donc c'est vraiment quelque chose qui est planifié, ce genre de grand crossover planifié sur un an. Et pour revenir à la question du transmédia, oui, tout à fait, puisque, comme vous l'avez dit, la kryptonite est apparue dans une émission radio. C'est également dans cette série radiophonique des années 40 qu'il y a eu Jimmy Olsen, qui a fait sa première apparition, qui est un peu comme Harley Quinn, en fait, puisque Harley Quinn est apparue dans la série animée Batman avant d'apparaître dans les comics. Il y a une grosse influence, comme on l'a dit plus tôt, c'est très tôt qu'on s'aperçoit que Superman est un succès, un succès éditorial, puis un succès surtout en tant que personnage de merchandising. Donc, fatalement, les autres adaptations influent sur la bande dessinée, ne serait-ce que le film de Richard Donner qui a influencé John Byrne sur la relecture des années 80.
Superman, c'est aussi un personnage qui a énormément de versions maléfiques de lui-même. Alors, il y a les plus évidentes, Bizarro, Ultraman, on a parlé du Superman d'Injustice, mais il y a également Zod, qui est un kryptonien général sur Krypton, mais qui a quand même énormément de similitudes avec Clark. Et aujourd'hui, il y a énormément de gens qui plébiscitent même certaines versions alternatives de Superman, mais dans d'autres séries, par exemple Homelander dans The Boys. Est-ce que en 2025, il est plus facile d'écrire Superman et d'en faire un vilain que ce phare d'espoir qu'il a toujours été censé être?
Alors,
François Hercouet.
Ouais, alors ouais, moi je verrais plutôt le contraire en fait, c'est qu'il a, je pense qu'avec notamment Homelander, cette créature de Garth Ennis qui déteste rien tant que le super-héros, donc paradoxalement il l'adore également. Je me souviens d'un épisode dans sa série Hitman que l'on publie en Urban Cult, ça c'est le placement produit, mais donc d'une discussion entre Hitman et Superman, et il y a vraiment un rapport d'amour-haine en fait entre Garth Ennis et le personnage. Et Yann pourra très bien en parler parce qu'il travaille également sur la série, mais on se retrouve du coup avec Homelander avec cette version extrême, et je pense que aller au-delà, après déjà le Superman d'Injustice qui était assez hardcore, et du coup le personnage d'Homelander qui à mon sens finit dans ses clous, je pense qu'après il n'y a plus de table, je pense qu'on est prêt en fait à se rappeler à nouveau en fait la version originelle du personnage, enfin la version primal, quasiment. Je pense que quand on revient un petit peu au contexte de création du personnage, donc la crise de 29 aux États-Unis, avec toute cette crise aussi socio-culturelle, historique, les conflits internationaux qui allaient culminer avec la Seconde Guerre mondiale, et l'époque actuelle, on se retrouve ici en fait avec un creuset en fait d'éléments qui nous appellent et qui nous rappellent l'essentialité du personnage de Superman. Et quelle meilleure année en fait que 2025 peut-être pour le revoir renaître en fait au cinéma. Donc voilà, pour moi, je serais plutôt sur ce rappel de la nécessité du personnage et de se rappeler.
En fait, là, vous êtes en train de comparer Superman à, vous savez, ces trucs qu'on voit dans les trains à ne casser qu'en cas d'incendie. Voilà. Donc, en fait, quand le monde sombre dans la noirceur la plus totale, c'est à ce moment-là où Superman devient pertinent.
Il faut se rappeler où est le marteau, oui. Tout à fait. Donc, on est effectivement sur l'une des fonctions même du personnage. Pour moi, c'est l'objectif, c'est année entre le on va dire le moment où on va nous commencer à vivre un petit peu à l'heure de Superman avec l'exposition qui a eu lieu au festival d'Angoulême et jusqu'au point d'orgue qui sera du coup le mois de juillet avec la diffusion du film de James Gunn. On est dans une année qui va être assez décisive sur le personnage, sur le genre super-héroïque, puisque souvent Superman est également un peu le thermomètre dans la main du genre même littéraire qu'est le super-héros. Est-ce qu'il va être capable et ceux qui vont l'inspirer, est-ce qu'ils vont être capables tout simplement de réinventer un petit peu le genre et l'intérêt pour cette littérature. Donc, moi je serais plutôt du côté de... Il est temps de se rappeler pourquoi être gentil, c'est pas une faiblesse.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, merci François Hercouet, merci Arnaud Tomassini, merci Yann Graff et merci Alexandra Ramos d'avoir participé à ce blockbuster consacré au comic book de Superman. J'aimerais remercier également très chaleureusement Charles de Cilia qui réalise cette émission, une émission préparée par Lisiane Larbani et Manon Rax, et aujourd'hui à la technique, Mathias Alléon. Je vous rappelle que vous pouvez me laisser un message au 01 56 40 30 20 ou même parler directement avec moi sur Instagram, et vous pouvez d'ores et déjà écouter toutes nos émissions consacré à Superman en podcast sur l'application Radio France.